Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine dans cette émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA, déjà plus de 2,3 millions de fans. Merci de votre fidélité et on reste évidemment sur vos appels au 001 202 619 31 40, 001 202 619 31 40. On va saluer avec nous ce soir depuis Libreville Jules Valentin-Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir.
On va saluer également Élisée Ongpatine à Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée. Élisée Ongpatine, est-ce que vous nous entendez au Bénin? On va saluer également Amdine Sy qui nous attend depuis Dakar. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas Pulon et bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Allez, on commence évidemment par cette information de la soirée qui vient de tomber. C'était attendu, ce n'est pas une surprise, mais Cristiano Ronaldo qui obtient son 4e Ballon d'Or, le Ballon d'Or France Football. L'information avait déjà été révélée par quelques médias espagnols dès ce lundi après-midi. Ils avaient tweeté la une de l'hebdomadaire français à paraître demain. Mais cette fois, c'est officiel. Il a été élu par les journalistes des 173 pays, évidemment. On se souvient de cette année formidable pour Cristiano Ronaldo. L'Euro 2016 avec le Portugal et surtout la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Amdine Sy, c'était attendu.
De Cristiano Ronaldo qui a marché sur l'eau cette année, il faut le dire, parce que gagner la Ligue des Champions, la plus prestigieuse compétition européenne, et gagner aussi l'Euro pour la première fois de l'histoire, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et le faire devant Messi qui a eu du mal avec le Barça, mais avec sa sélection aussi, l'Argentine, je pense que c'est mérité. Et je félicite également France Football qui a donné, qui est revenu dans l'orthodoxie, parce que le Ballon d'Or, c'était ça. C'était les journalistes qui votaient pour le meilleur joueur du monde. Et je pense que c'est bien fait. Les 176 journalistes du monde ont voté pour le meilleur footballeur du monde. Chapeau et félicitations à Cristiano Ronaldo qui a été vraiment le meilleur cette année.
Merci beaucoup, Amdine. On va continuer évidemment à parler. Jules Valentin-Goué, on vous retrouve à Libreville. Je vais vous donner le classement qui est livré en direct sur le fil Twitter, notamment de France Football. On a évidemment Messi deuxième et Griezmann troisième. On a également Gareth Bale, par exemple, qui est sixième. Ou encore septième, Riyad Mahrez pour les Africains. Pépé est neuvième, à égalité avec Gianluigi Buffon. Pierre-Emerick Aubameyang, lui, n'est que onzième. Que vous inspire ce classement et ce nouveau Ballon d'Or pour Cristiano Ronaldo? J'ajoute également qu'il est favori pour le trophée FIFA du meilleur joueur de l'année.
Oui, bien sûr, ce qui est logique. Il joue dans la région et la plus dynamique du football mondial. Et si déjà il est, pour ainsi dire, pour parodier, le premier de la classe, et dans la classe supérieure du lycée, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas le meilleur du lycée. Donc là, Ronaldo est sur le toit du monde actuellement. Ça récompense un football longtemps, ma foi, inspiré ce beau jeu qu'est le football. Je parle du Portugal, et en même temps, nous avons un joueur au style purement européen, complet, au style purement européen, finisseur décisif, et ça nous change un peu de Messi, qui a tout du joueur sud-américain.
Merci beaucoup. On retrouve Élisée Ongpatine. Élisée, donc Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or. Est-ce que l'affaire des Football Leagues, ces 150 millions d'euros qui ont été mis de côté par Cristiano Ronaldo pour ne pas payer d'impôts, est-ce que ça entache un peu ce Ballon d'Or selon vous?
Bon, plus ou moins, puisque déjà, quand vous êtes une star, un joueur très suivi, il ne faudra pas se mettre dans ce genre d'affaires maintenant. Sur le terrain, eh bien, c'est un artiste. L'artiste a prouvé durant cette saison qu'il a de la valeur et qu'il peut à lui seul amener non seulement son club, mais aussi son équipe nationale au plus haut sommet du football mondial. Il a démontré durant la saison, il a remporté la Ligue des Champions, même si il n'était pas présent en finale puisque blessé. Donc, c'est-à-dire qu'il a apporté énormément dans cette Coupe d'Europe des Nations, puisqu'il a permis donc au Portugal de se qualifier pour la finale. Loin de là, il faut dire que Cristiano Ronaldo, c'est un joueur extraordinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se joue entre lui pratiquement et Lionel Messi, puisque c'est les deux monstres du football mondial aujourd'hui. Cristiano Ronaldo a encore montré qu'il a de la valeur, il a de la ressource. Enfin voilà, peut-être pour les 3 ou 4 prochaines saisons.
Merci beaucoup Élise Patine. On rappelle évidemment l'information de la soirée qui est tombée depuis Paris. Ballon d'or France Football, Cristiano Ronaldo, édition numéro 4. On rappelle par exemple que Lionel Messi, lui, en a eu 5. Et donc la guéguerre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo qui va se poursuivre. Allez, on parle à présent de l'autre information sportive de ce lundi, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. L'UEFA qui a procédé au tirage au sort aujourd'hui en Suisse. Les deux cadors espagnols qui sont quand même un peu ménagés, notamment le Real Madrid qui va affronter Naples. Et c'est un classique, mais qui a toujours été remporté pour le moment par le FC Barcelone. Le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. On va vous entendre, messieurs, là-dessus. On va prendre un premier auditeur qui nous appelle depuis le Bénin. Il s'appelle Oscar. Bonsoir, Oscar. Alors Oscar, vous avez suivi ce tirage au sort. Qu'est-ce que vous pensez notamment du match Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone?
Vraiment, je vois que ça serait un grand choc. Un grand choc parce que Paris Saint-Germain ou pas n'est plus un petit club. Et une fois déjà qu'ils se sont fixés l'objectif de remporter un jour le Champions League. Et je suis sûr qu'on ne peut pas vouloir remporter un Champions League sans rencontrer les meilleures équipes du monde comme Barcelone, Real et comment on appelle, et Manchester et je dis Bayern. Bayern. Donc aujourd'hui, s'ils arrivent à se retrouver face au Barcelone, c'est de bonne guerre. Et que je suis sûr qu'ils seront à la hauteur si vraiment ils donnent le travail. Surtout que Barcelone est en baisse de forme en ce dernier temps.
Merci beaucoup Oscar de nous avoir appelé. Oscar Djossou qui nous appelait depuis le Bénin. On va quand même poser la question à Élisée Oumpatine. Élisée, il est confiant, hein, votre compatriote béninois, mais ça va mal au Paris Saint-Germain. Hein. La claque évidemment 3-0 contre Montpellier, le match nul difficile contre le Ludogorets et puis ce nouveau match nul contre Nice, évidemment. Qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous êtes confiant, sachant que la méthode Emery n'est pas forcément appréciée du côté des Parisiens, hein?
Bien évidemment, c'est pas forcément apprécié puisque déjà à ce niveau du championnat, le Paris Saint-Germain est souvent leader durant les 3 dernières saisons. Mais déjà aujourd'hui, le PSG se retrouve à la 3e place. Forcément qu'il n'y a pas la confiance même dans le vestiaire du club parisien. Maintenant, il reste beaucoup de temps pour préparer cette double confrontation contre le FC Barcelone. Ce sera pratiquement en février prochain, le 14 février prochain. Donc, le PSG a tout le temps de préparer ce match. C'est vrai que ça va se jouer sur deux confrontations directes et élimination directe. Donc, ça peut jouer. Et le PSG, en Ligue des Champions, n'a pas encore eu gain de cause face au FC Barcelone. Le FC Barcelone aussi qui traverse des moments difficiles en Liga, est classé 2e à 6 points derrière le Real Madrid. Mais il y a beaucoup de facteurs puisque c'est vrai que le tirage au sort a été effectué aujourd'hui et compte tenu de la méforme du Paris Saint-Germain, on peut dire que le FC Barcelone peut gagner. Mais attendons de voir puisque le match va se jouer en février prochain.
Allez, on va demander l'avis évidemment de Jules Valentin. Oui, Jules Valentin rappelle les autres 8e de finale puisqu'on aura le Real, je le dis, contre Naples, Manchester City contre Monaco, Benfica Dortmund, Bayern Arsenal, Porto Juventus, Leverkusen Atlético Madrid et Séville Leicester. Que vous inspire ces 8e, Jules Valentin?
Oui, un 8e très relevé comme toujours. Vous savez, la Ligue des Champions est devenue la rencontre entre les équipes, les multinationales du football. Et donc, à partir des 8e de finale, généralement, le niveau est même plus relevé qu'en Coupe du Monde, les meilleurs joueurs étant dans ces clubs et en permanence. Donc là, nous avons vraiment des affiches très impressionnantes et on se rend compte que la présence latine est vraiment relativement pléthorique et que c'est ce football peut-être qui, ces derniers temps, occupe le premier rang. Mais sinon, nous aurons aussi de très belles oppositions de style comme entre Arsenal et Bayern ou, ma foi, entre Séville et Leicester.
Oui, ce sera une belle confrontation, le Bayern contre Arsenal. Hamdine, si vous, vous voyez évidemment ces confrontations d'un autre œil, notamment le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, nouveau Ballon d'Or, et Zinedine Zidane. Tirage a priori facile hein, contre Naples. Hein.
Oui, tirage facile, mais match piège pour les champions d'Europe, parce que c'est vrai que le Real est une bonne dynamique hein, avec Zidane qui vient de battre un record avec 34 matchs sans défaite pour cette équipe du Real de Madrid. Mais attention à Naples parce que les Italiens sont toujours très, très difficiles à manœuvrer et Naples n'a rien à perdre face aux champions en titre. Donc attention. J'aimerais un peu me prononcer aussi sur le match PSG contre le FC Barcelone. Vous l'avez dit tantôt, mais Nicolas, sachez que Paris n'est plus magique. Paris, qui n'arrive pas à quand même à combler le vide depuis le départ de non seulement Ibrahimovic, mais Paris est orphelin aussi de Laurent Blanc, parce que c'est pour la première fois que Paris enchaîne trois matchs sans victoire, vous l'avez dit, 3-0 face à Montpellier, le nul contre les Bulgares et ce nul hier contre Nice. Cela veut dire tout simplement que le match Paris Saint-Germain contre Barcelone ressemble fort en ce moment à un combat entre David et Goliath parce que le Paris Saint-Germain n'a jamais réussi à éliminer cette équipe du FC Barcelone qu'il a dû rencontrer à trois reprises. Mais le football reste le football. Sinon, Arsenal qui est très mal tombé, Arsenal qui a été leader, mais qui tombe sur le grand Bayern de Munich. C'est le choc des chocs. Nicolas Pinot.
Ouais, merci beaucoup. On va partir du côté de Conakry, retrouver Diallo, Tierno, Oumar, Diallo. Bonsoir.
Oui, bonsoir la VOA et bonsoir à l'ensemble des auditeurs de ce grand match.
Ouais, merci beaucoup. Alors, on parlait du Paris Saint-Germain qui a du mal, hein, au-delà du départ de Zlatan Ibrahimovic, parce que quand même Cavani plante beaucoup de buts. C'est plutôt le style de jeu et la faiblesse, notamment défensive, et le manque de panache de cette équipe parisienne qui inquiète. Vous, comment vous voyez cette confrontation PSG-Barcelone? Vous l'avez dit sur Facebook, hein, les Barcelonais qui auront la chance de recevoir au match retour. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, le déplacement du Barça au stade de Paris Saint-Germain, vu les difficultés actuellement qui traversent le PSG. C'est depuis le départ d'Ibrahimovic, avec beaucoup d'autres difficultés au niveau de l'attaquant et puis les défenseurs aussi sont très faibles. Ça, le Paris ne pourra pas résister devant les Catalans pour encore une fois. Vu l'Arsenal contre le Bayern de Munich, l'Arsenal a fait toujours créer des surprises en éliminant le Bayern. Ça, j'ai toujours été comme ça, étant un supporter d'Arsenal. Mais les Napolitains face à Real Madrid, ça sera une grande surprise. Ça, j'ai promis aux fans du football mondial. Vu les Napolitains, j'ai regardé le dernier match de Napoli face à Benfica Lisbonne. À stade de Benfica, c'était magnifique et exceptionnel. Vu le Madridien actuellement là, avec Cristiano Ronaldo, à tout moment, il peut faire des différences, mais actuellement, les petits poussés là, comme le Napoli et Leicester, peuvent créer des surprises cette année. Je suis sûr et convaincu de ça.
Et oui, Leicester, hein, qui était sorti premier de son groupe. Merci beaucoup hein, de nous avoir appelé depuis Conakry. On va rappeler juste hein, la confrontation Paris Saint-Germain-Barcelone. Évidemment, il y avait eu les quarts de finale en 2012-2013 et les saisons 2014-2015. Et il y avait également la phase de poule hein, 2014-2015. Vraiment, on ne s'en sort plus entre Parisiens et Barcelonais. C'est la grande histoire d'amour du côté continental. On va suivre aussi ça évidemment sur VOA Afrique. Voilà, on va poursuivre évidemment sur VOA Afrique. On va parler de grande compétition évidemment européenne, c'est l'Europa League. Et là encore, le favori Manchester United qui avait eu des difficultés lors de la phase de poule. Eh bien, Manchester United qui affrontera Saint-Etienne lors des 16e de finale. À noter également que Villarreal sera opposé à l'AS Rome et Mönchengladbach contre la Fiorentina. Jules Valentango, évidemment, on se souvient de l'AS Saint-Etienne des Verts dans les années 70-80 pour leur beau parcours. Mais là, quand même, c'est plus du tout le même visage. A priori, hein, parce que c'est du football. Parcours facile pour Manchester sur cette épreuve.
Oui,
bien sûr. Ça, c'est, il faut dire, Saint-Étienne a pris le gros lot là, avec une équipe de Manchester United qui est en pleine reconstruction et qui tient à rejoindre le sommet de l'Europe comme il l'a fait il y a quelques années. Bon, donc, c'est, si Manchester est éliminé à ce stade de la compétition, sera un échec pour Mourinho, un échec pour la politique sportive annuelle de ce club. Je pense qu'ils mettront tous les moyens, et ils ont les moyens, ne serait-ce qu'en termes de joueurs, pour réussir ce match, disons cette double confrontation. Et, mais seulement, il ne faut pas oublier qu'un match de football, c'est d'abord un jeu d'équipe. Un jeu d'équipe, et souvent, et Saint-Étienne a toujours eu cette petite flamme qui manque peut-être à d'autres équipes, celle de pouvoir toujours présenter un jeu commando quand il s'agit de franchir les grands obstacles, et ce sera le outsider, et le outsider n'a rien à perdre.
Alors qu'on entend évidemment les grenouilles de Libreville derrière vous, Jules Valentin, le maître, le chef d'orchestre. On va quand même parler, Élisée Oupatine, hein, de Manchester. Manchester, évidemment, sur le papier, c'est une équipe formidable, Pogba, Ibrahimovic et bien d'autres. Mais pourtant, Manchester n'est que 6e à 13 points du leader Chelsea. C'est mal parti, évidemment, hein, pour la bande à Mourinho. Sur le papier, c'était la meilleure équipe d'Angleterre. Et pour le moment, à la fois sur l'Angleterre et à la fois sur le continent européen, ils peinent à prouver, hein, évidemment, les mancuniens.
Oui, ils peinent à confirmer, hein, surtout avec des grands clubs, hein. En Angleterre, le championnat anglais, on sait très bien, c'est un championnat très, très relevé. Même vous pouvez avoir des difficultés, hein, pour battre les équipes qui sont en bas du classement. Mourinho a été recruté, hein, pour amener Manchester au sommet du football d'Angleterre d'abord, avant de remporter, pourquoi pas, des trophées sur le continent européen. Maintenant, aujourd'hui, on voit que les transferts n'ont pas encore pris leur pas, hein, puisque Paul Pogba, c'est vrai, ne se retrouve pas encore et il n'a pas encore prouvé ce qu'il jouait du côté de la vieille dame Ibrahimovic, qui a raillé sur le football français, qui peine, hein, à se débarrasser des défenseurs anglais. C'est le vrai, hein, c'est le charme du football anglais, c'est la particularité de ce football, c'est bien sûr le jeu rock. Aujourd'hui, Manchester United va sous prendre l'Europa League, hein, pour pouvoir se mettre en forme, pourquoi pas aller titiller les équipes du sommet, notamment Chelsea qui domine pratiquement cette première ligue avec déjà 8 matchs sans défaite. C'est-à-dire que Manchester United a du chemin à faire, et face à Saint-Etienne, eh bien, ça peut aller, puisque sur papier on voit que Manchester peut passer. Mais attention, parce que sur le rectangle vert, c'est autre chose.
Et oui, évidemment, le rectangle vert, vous avez raison. On va continuer à suivre ça sur VOA Afrique. Allez, on parle à présent de la Coupe du Monde des clubs, et c'est déjà terminé pour l'unique représentant africain, comme le tout-puissant Mazembe l'an dernier. Le représentant du continent n'a pas brillé, il a été éliminé dès son entrée en quart de finale. Les Mamelodi Sundowns, les champions d'Afrique, hein, les Sud-Africains, qui ont été battus 2-0 par les Kashima Antlers, c'était dimanche à Osaka. Un petit match et puis s'en va pour l'Afrique, malheureusement. Quant au club japonais, il affrontera en demi-finale les Colombiens de l'Atlético Nacional, et l'autre demi-finale, toujours explosive, entre l'Espagnol du Real Madrid et les Mexicains du club América. On va poser la question à Jules Valentin Gouet. Les Mamelodi Sundowns, malheureusement, sur ces 90 minutes qui n'ont pas fait le poids.
Oui, on est dans la continuité des échecs des clubs africains à ce stade, depuis les finales sensationnelles du tout-puissant Mazembe en 2010 et du Raja par la suite face au Real. Et alors, le représentant africain a gagné du grade, dont il est désormais attendu comme un prétendant sérieux, sans avoir totalement les moyens. Alors, il n'est plus un outsider, l'effet de surprise ne joue plus. Et je crois que c'est surtout ça qui pèse sur la balance, sans compter le manque d'expérience aussi de Mamelodi Sundowns, qui, toujours dans son jeu traditionnel, un peu spectaculaire, manque de réalisme.
Oui, on va parler. Ouais.
C'est ça la réelle raison.
Et Élisée Oupatine, évidemment, les demi-finales alléchantes entre l'Atlético Nacional et Kashima Antlers. On imagine que les Colombiens devraient passer, mais surtout l'autre demi-finale entre les Espagnols du Real et les Mexicains du Club América. On pourrait avoir cette finale, encore une fois, qui était attendue sur le papier, entre les Colombiens de l'Atlético Nacional et le Real Madrid, hein.
Bien évidemment, hein, sur le papier. C'est ce qu'on pourra voir hein, mercredi et jeudi prochain, le Real Madrid qui se déplace, hein, qui s'est déplacé d'ailleurs du côté du Japon pour aller remporter cette Coupe du Monde des clubs, puisque jusque-là, le Real n'a remporté qu'une seule fois hein, cette compétition. Maintenant, les Colombiens qui vont rencontrer les Japonais de Kashima, c'est vrai que cette équipe colombienne a la faveur des pronostics, mais n'oublions pas que Kashima évolue à domicile et à certains joueurs expérimentés dans...
Alors, on était avec Élisée Ongpatine. On va prendre un auditeur en ligne qui s'appelle Richard Zongo, qui nous appelle du Burkina Faso. Richard, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas Pineau et bonsoir à tous les incondisciples de Sporama.
Oui, alors, évidemment, sur Sporama, malheureusement, les Africains pas bien représentés. Hein.
Richard. Oui, effectivement, le Mamelodi Sundowns qui a été éliminé par l'équipe japonaise. Je dirais que le niveau du Mamelodi Sundowns n'est pas à la hauteur cette année-là. Puisque quand on remarque, on voit que le Mamelodi Sundowns, d'abord sur le continent africain, a été éliminé en phase au niveau des demi-finales et de cette Champions League-là. Et c'est parce que le Mamelodi Sundowns a posé une réserve et a eu le verdict. Et cette réserve-là que le Mamelodi Sundowns a pu discuter la finale de la Champions League africaine et l'a bien sûr remporté cette coupe-là. Mais au niveau international, je crois que le niveau du Mamelodi Sundowns n'est pas vraiment à la hauteur.
Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis le Burkina Faso. On va parler d'un autre sport africain qui était en lumière, évidemment. C'était le handball, l'Angola, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations Féminines. Les Angolaises qui ont battu en finale la Tunisie sur le score de 36-17. C'est évidemment le 12e titre pour les Angolaises. Ce qui a fait débat, c'est l'élimination du Sénégal, sa disqualification. Le Cameroun a terminé 3e, évidemment, de cette compétition. Et la réaction ce soir sur Sporama de Mack Tarba, le ministre des Sports sénégalais, qui demande évidemment que cette affaire soit tirée au clair. On l'écoute.
Il y a la fédération internationale qui a décidé en défaveur du Sénégal et tout le monde préparait cette finale-là. On est en train de suivre ce dossier parce que le président Seydou Diouf est là-bas. On est en contact avec lui pour regrouper tous les éléments qui ont poussé effectivement la fédération internationale de casser les deux verdicts qui ont été déjà donnés par la commission des règlements, la Confédération africaine de handball. Le président Seydou Diouf n'est pas d'accord et nous avons des Sénégalais qui vont étudier cette question-là pour continuer à défendre les intérêts du Sénégal. Il faut rester serein, suivre le dossier et se battre avec les moyens dont on dispose pour défendre les intérêts du Sénégal.
Voilà Mack Tarba, le ministre sénégalais des Sports. Alors Amdine, si évidemment, que s'est-il passé pour que cette disqualification intervienne ?
Que s'est-il passé? Bon, on ne le sait pas au juste, mais on sait que le Sénégal, pour la première fois de l'histoire, s'est qualifié pour la finale du championnat d'Afrique de handball. Et les Lions s'apprêtaient à disputer quand même cette finale. Mais à quelques heures de cette finale de la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, une nouvelle est tombée comme un coup de massue. On a fait savoir aux Sénégalaises qu'elles ne vont pas disputer la finale parce que tout simplement elles ont perdu sur tapis vert. Et on reproche au Sénégal d'avoir aligné la joueuse Doumbou Camara qui avait déjà porté les couleurs de la France en 2014. Mais le problème c'est que cette même joueuse a eu à disputer 3 compétitions avec cette équipe nationale du Sénégal. Il y a même une compétition où le Sénégal avait battu en finale la Tunisie. La Tunisie avait battu le Sénégal en finale, donc on n'a pas parlé de son cas. La Tunisie avait porté réserve, la CAF avait rejeté. Et les Tunisiens sont revenus à la chasse, la CAF a rejeté. Ensuite, c'est le jury d'appel qui est intervenu pour donner gain de cause à cette équipe tunisienne qui a joué cette finale et perdu. Mais cette disqualification est lourde de conséquences parce que le Sénégal ne va pas disputer, non seulement n'a pas disputé la finale de ce championnat d'Afrique, mais le Sénégal ne participera pas à la Coupe du Monde. Pourtant, les 3 premières équipes devaient quand même prendre part à la prochaine Coupe du Monde. On parle même d'une sanction de 4 ans infligée au Sénégal, mais ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore notifié. C'est pourquoi, au niveau du Sénégal, on va entamer un combat juridique devant les instances. C'est la décision de la Fédération sénégalaise de handball, Nicolas Pignon.
Oui, Jules Valentin Gouet, ça c'était pour le volet extrasportif. Hein. Sur le terrain, les Angolaises, encore une fois, 12e titre hein, sur le plan continental.
Oui, les Angolaises qui règnent sur la discipline en Afrique depuis quelques décennies et qui profitent bien sûr d'une organisation quasi parfaite en Angola en ce qui concerne le handball et le basketball en particulier. Et je crois que ce n'est que justice qu'elle continue à servir de locomotive.
Allez, on va donner un dernier résultat. Le basket nord-américain Russell Westbrook qui a fini sa série incroyable des triples-doubles malgré la victoire contre Boston 99-96. Hein, c'était depuis le 25 novembre qu'il avait réussi à chaque match un triple-double. Eh bien, non, lors de ce dernier match. Voilà, vous l'entendez derrière moi. Ainsi s'achève cette émission Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis. On va remercier Jules Valentin Gouet à Libreville. Bonsoir, Jules.
Bonsoir Nicolas Pinot, à très bientôt. Bonsoir à mes grenouilles aussi.
Hey, le chef d'orchestre des Crapauds à Libreville. On va saluer Élisée Oumpatine, le petit Ryan hein, qui fête ses 1 an ce soir. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
On va saluer également notre ami Amdinsi qui est à Dakar. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. La mise en onde était assurée par Fred Nerkayemi. Todrius Riggis était à la console. Nicolas Pinot à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page